Bien. Bonjour à vous, bonjour à tous et merci de venir affronter la chaleur jusqu'à nous. Peut-être vous saviez que la salle était climatisée, donc vous êtes encore plus motivé que d'habitude et bien sûr pour écouter le père Charles Bonin avec nous. Vous connaissez notre organisation habituelle. Donc cette conférence est organisée par l'association de la Bibliothèque du Centre théologique de Mélan. Représenté notamment par Benoît Guin, qui est le vice-président. Benoît va faire une introduction présentant le père Charles Bonin. Ensuite, Charles nous donnera une conférence d'à peu près combien de temps, Charles? Une demi-heure, à peu près. Et puis ensuite, des temps de questions-réponses. Voilà. N'oubliez pas non plus que le livre du père Charles Bonin est disponible à la vente à la sortie, en sortant sur votre droite. Merci d'être présent et je laisse la parole tout de suite à Benoît Guin. À vous, Benoît.
Merci Bertrand. Nous sommes très heureux d'accueillir à nouveau ce soir un prêtre du diocèse. Malgré un ministère très prenant, certains parviennent à écrire des livres. Le sujet de celui-ci sort de l'ordinaire, mais le parcours de son auteur n'est pas banal non plus. Bien cher père, après une hypocagne et des études de droit à l'université parisienne Panthéon-Assas, vous avez intégré l'école du commissariat de la Marine en 1998 et obtenu un master de droit international public. Vous avez ensuite été engagé sur des théâtres de conflits armés au Kosovo et en Côte d'Ivoire, puis dans diverses opérations de l'action de l'État en mer. Alors que vous étiez enseigne à l'école navale, vous êtes entré dans la vie religieuse en 2008 et avez été envoyé en mission dans les quartiers populaires des banlieues de New York, notamment auprès des jeunes et des prisonniers. Vous avez poursuivi votre formation à l'Institut théologique de Bruxelles et pour être ordonné prêtre du diocèse de Grenoble-Vienne en 2017, et vous êtes actuellement curé doyen de 5 paroisses en Isère, aux alentours de Beaurepaire. Très sensible à la question du sens de l'existence, crucial pour nos contemporains, vous décidez d'approfondir la question de l'eschatologie. Votre carrière dans la marine vous a convaincu, avec le vieux Sénèque que vous m'avez cité, qu'il n'y a pas de bon vent, dit-il, pour celui qui ne sait pas où il va. Dans la vie, il s'agit avant tout de garder le cap, le bon cap. Vous passez donc un master de théologie dogmatique par correspondance dans le cadre de la célèbre université des Dominicains d'Omouni. Comme bien des travaux universitaires de ce type, votre mémoire aurait pu rester dans un tiroir. Mais vous m'avez confié que, informé du sujet de votre master, le cardinal Bustillo vous avait alors vivement conseillé de le publier. D'où la publication qui nous réunit ce soir, parue le 9 avril dernier chez Arthège. Faut-il se préparer à la fin des temps? Espérer à la lumière de l'Évangile, 316 pages. Dans un petit entretien que nous avons eu il y a presque 2 mois, je vous demandais ce qui, dans votre formation à la prêtrise, dont je viens de retracer les principales étapes, avait pu orienter votre réflexion sur le sujet. Vous m'avez répondu que vous aviez toujours été attentif à la question du sens de la vie. De fait, nos contemporains sont nombreux à être déboussolés et d'autant plus sous l'effet des épreuves de notre temps. Je vais y revenir. La première partie de votre livre est consacrée au mystère d'iniquité et au millénarisme. Vous rencontrez donc Ticonus et la cité de Dieu de Saint-Augustin, mais aussi Irénée. C'est un peu difficile de vous suivre et je ne suis pas sûr que vos lecteurs soient familiers de ces pères de l'Église, surtout quand vous prenez un peu vos distances par rapport à telle de leur opinion. Je me suis demandé ce qu'en penseront les disciples d'Henri Marroux, auteur d'une théologie de l'histoire inspirée de saint Augustin, paru en 1968 et qui a eu un certain retentissement. Vous consacrez votre deuxième partie à la situation présente de l'Église. Martyr, prophète, vigilante et fidèle, selon les titres des trois chapitres. Vous appelez un chat un chat et vous avez le grand mérite de relier les dérives sociétales ainsi que les attaques contre le message évangélique aux manœuvres de l'Antichrist. Vous citez des théologiens, les papes et le magistère. Les évêques sont absents. Enfin, dans votre troisième et dernière partie, intitulée Vers la plénitude du royaume, vous apportez les distinctions nécessaires sur le jugement avec une majuscule. Reprenant la chanson de Paul Naref, on ira tous au paradis. Mais surtout, surtout, en analysant la doctrine controversée dans les premiers siècles de l'apocatastase ou restauration universelle, vous montrez que la réalité sera pour le moins plus nuancée. Guerre, famine, épidémie, séisme, réchauffement climatique, déconstruction de la sexualité, de la famille, de la parenté, du rapport à la mort. Chrétiens, nous sommes confrontés à ces épreuves, mais sans ignorer les appels à la vigilance de notre Seigneur dans le discours eschatologique du chapitre 24 de saint Matthieu. Nous savons où nous allons, car c'est lui qui nous conduit et nous réconforte. Ne craignez pas, petit troupeau, nous dit-il. Il nous l'assure. Je suis, non pas je serai, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Un grand merci donc, mon cher père, de nous parler, c'est devenu rare, hélas, des fins dernières, non pour nous effrayer, comme jadis certains prédicateurs, mais pour réveiller notre espérance.
Merci Benoît pour cette introduction. Merci Bertrand pour cette invitation également. Merci à vous tous qui êtes présents dans la salle ou en visio pour ce temps que je voudrais être aussi un temps d'échange sur un sujet qui n'est pas très simple. Et je vous propose pour commencer de prendre un petit temps de silence pour confier tous ceux qui aujourd'hui, actuellement, sont sous les bombes à Gaza et que nous le fassions en communion avec tous ceux qui se réunissent, notamment les Amis de la vie à l'appel du CCFD, pour cette cause et pour demander la paix dans notre monde qui en a tant besoin. On peut prendre un petit temps de silence pour commencer. Seigneur, nous te confions tous nos frères et sœurs qui souffrent de la guerre partout dans le monde et tout particulièrement à Gaza, au Moyen-Orient. Nous te prions pour les dirigeants de ce monde, qu'ils soient inspirés par ton esprit de paix pour trouver des solutions à une paix durable dans ces pays en guerre. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, cette prière que nous faisons pour nos frères et sœurs, elle nous rappelle aussi le contexte d'inquiétude dans lequel nous sommes avec ces guerres qui se généralisent dans le monde, qui était précédé par la crise de Covid-19, contexte d'épidémie, mais aussi contexte d'instabilité économique et politique, et puis évidemment les désordres environnementaux que nous connaissons avec la crise climatique et les difficultés que nous avons à y apporter des solutions. Donc tous ces éléments de notre monde eh bien, donnent un contexte qui peut être anxiogène et qui nous confronte avec cette question existentielle de notre propre finitude. Comme disait Paul Valéry, nous autres civilisations savons désormais que nous sommes mortels. On le redécouvre encore toujours plus chaque jour. Et il peut être bon dans ce contexte eh bien, de se rappeler notre propre fin dans la double acception du mot fin, qui est à la fois un terme et également le but. Qu'est-ce qui finalement, dans notre histoire, va advenir pour nous-mêmes, pour notre monde, pour notre société, et pourquoi? Quel est le but finalement de toute cette histoire, de toute notre histoire personnelle et de l'histoire de ce monde? C'est finalement la question eschatologique. Donc l'eschatologie, c'est ce qui concerne la fin à laquelle se confronte la parole de Dieu dans la littérature apocalyptique qui est abondante sur le sujet. Apocalypse, ça veut dire révélation, c'est-à-dire la révélation du sens de l'histoire, du sens de cette existence confrontée au mal et qui essaye d'y apporter une lumière pour notre temps. La littérature apocalyptique souvent se développe dans des contextes troublés, de guerre et de persécution pour porter une espérance. C'est le cas de l'Apocalypse, c'est le cas du livre de Daniel et finalement de tous les livres apocalyptiques qu'on trouve dans la Bible et qui sont assez nombreux. Quelle lumière pouvons-nous trouver aujourd'hui dans les temps obscurs que nous traversons? Parce que cette question, elle demeure d'actualité, elle est de tous les temps, cette question de la fin des temps, et elle ne nous épargne pas donc aujourd'hui en 2025. Et c'est l'objet finalement de cette étude que j'ai voulu conduire, d'essayer de décrypter ce que Dieu a à nous dire pour notre temps et pour tous les temps. Parce que la parole de Dieu, elle est intemporelle, ou plutôt Dieu est dans un éternel présent qui nous rejoint donc encore aujourd'hui. Qu'est-ce que l'Écriture a à nous dire pour cette actualité troublée que nous vivons aujourd'hui? Cette question, elle est donc d'actualité toujours, et s'il est vrai que j'y ai été confronté personnellement, parce que cette question du sens de la vie m'a toujours habité, eh bien, l'actualité, lorsqu'elle est marquée par des temps troublés, lui donne une importance toute particulière et des accents d'autant plus forts. La fin des temps, elle est commencée pour nous chrétiens avec la résurrection du Christ. Nous sommes déjà dans les derniers temps qu'il annonce et qu'il inaugure par sa résurrection. Mais comment pouvons-nous nous y préparer? Et finalement, de quoi s'agit-il? Comment est-ce que nous pouvons comprendre ces derniers temps pour pouvoir mieux nous y préparer? Alors, dans une première partie de ce livre, j'essaye de définir un petit peu de quoi on parle sur ce sujet complexe de la fin des temps et de ce mystère de l'iniquité, autrement dit le mystère du mal dans son acception morale, qui marque tout particulièrement cette fin des temps. Le sujet finalement est assez peu étudié, même si, comme vous l'avez rappelé en introduction, il y a eu toute une période de l'histoire où on a beaucoup parlé de la fin des temps, surtout pour faire peur. C'était la pastorale de la peur. Ce n'est pas du tout mon propos aujourd'hui. J'espère au contraire apporter quelques lumières d'espérance, comme le fait la parole de Dieu. Mais on est parfois embarrassé lorsqu'on aborde cette littérature apocalyptique parce qu'elle est compliquée. Elle est compliquée parce qu'elle est pleine de symboles, parce qu'elle fait référence à des événements du passé et qu'elle en parle au futur. Donc c'est pour le moins paradoxal. Et ce sujet complexe, eh bien, navigue entre deux écueils, que sont effectivement une lecture uniquement du passé, prétériste, qui ne cherche à travers des événements révolus que des symboles ou des leçons à tirer pour notre temps. C'est le premier écueil. Et un autre écueil qui consiste à prendre les prédictions dont il est question dans cette littérature au pied de la lettre, dans une lecture trop littérale, qui voudrait suppléer Madame Soleil ou je ne sais quel autre voyant extralucide pour nous expliquer comment l'avenir va se dérouler. Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. La littérature apocalyptique, elle n'est ni du passé ni du futur. Comme je l'ai dit en introduction, elle est du présent et elle nous rejoint dans nos difficultés contemporaines. C'est pourquoi Jésus, lorsque ses disciples lui posent la question, est-ce que c'est maintenant que tu vas restaurer ton royaume et est-ce que c'est maintenant la fin du monde, au début du chapitre 24, Jésus ne répond pas à cette question. En revanche, il va donner à ses disciples des signes des temps. Donc il déplace le sujet de la temporalité en disant, je ne vous parle pas de choses du passé ni de choses de l'avenir, je vous parle pour aujourd'hui de réalités auxquelles il faut que vous soyez attentifs. Et c'est ce dont il s'agit lorsque Jésus invite ses disciples à discerner les signes des temps pour découvrir, à travers ce que nous vivons de manière très concrète, quelle est la juste attitude à avoir. Donc il se déplace du terrain uniquement temporel, sur le plan spirituel, pour que nous puissions découvrir quelle est l'attitude juste à avoir face à ces signes des temps. Et il va donner six signes qui sont un petit peu concentriques. Le premier signe, c'est le cadre et le contexte de cette fin des temps qui est marqué par l'effondrement religieux. Et puis à l'opposé de ce cadre, eh bien, on a l'avènement du Christ dans la gloire, qu'on appelle la parousie. C'est dire que tout le discours eschatologique du chapitre 24 de l'évangile de Matthieu est marqué par, à son commencement comme à sa fin, un contexte spirituel. Et on retrouve ça dans toute la littérature eschatologique et apocalyptique. Dans le livre de Daniel, il est question du temple. Dans le livre de l'Apocalypse, on commence par des remarques aux sept églises, pour bien signifier que la littérature apocalyptique, elle se situe dans un cadre liturgique, dans un cadre religieux, pour pas qu'on se trompe en le prenant justement uniquement matériellement comme la description de ce qui va venir, mais au contraire, le cadre est posé, on est dans un cadre spirituel et religieux. Au centre, on va trouver les causes qui vont provoquer cet effondrement et cette fin des temps, qui sont principalement l'imposture spirituelle et une prétention de fausse sagesse, et ce qui va avec un désordre moral et des persécutions des croyants. Je m'y arrêterai un petit peu plus longtemps, puisqu'on a ensuite les conséquences de cette imposture spirituelle et de cette fausse sagesse, que sont des troubles politiques et économiques, ainsi que des catastrophes cosmiques. Je n'ai pas besoin de m'étendre trop sur ce dernier point. Nous les constatons tous les jours et on peut dire qu'ils ont toujours existé dans l'histoire de l'humanité à travers les guerres notamment et puis également les épidémies. Mais c'est la partie seulement immergée de l'iceberg. Ce qui me semble plus intéressant, c'est de mettre au jour quelles peuvent être les causes fondamentales, les causes spirituelles de ces désordres auxquels nous assistons. Et c'est là qu'intervient ce fameux personnage de l'Antichrist qui est présenté dans cette littérature apocalyptique comme le fauteur de troubles, celui qui est à l'origine de tous ces désordres et qui en est la cause. Parce qu'il ne faut pas s'y tromper, comme nous le dit saint Paul dans la lettre aux Éphésiens, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances, des principautés, des dominations et les régisseurs de ce monde. Dans cette lettre aux Éphésiens, saint Paul pointe bien la cause spirituelle des désordres auxquels on peut assister. Et ce personnage de l'Antichrist incarne finalement toutes les causes du mal dans le monde. Alors qui est-il, ce personnage qui traverse l'ensemble de l'histoire, hein, puisque saint Jean, dans sa première lettre, lorsqu'il en parle, il dit l'Antichrist va venir, mais en vérité, il y a déjà eu des Antichrists. Donc on trouve une figure de l'Antichrist avec un A majuscule qui incarne toute cette figure du mal, ce suppôt du diable. Et en même temps, il y a eu plusieurs antichrists qui se sont succédés. On trouve tout au long de l'histoire différentes associations, différentes identifications qu'on peut faire à l'antichrist qui sont toutes finalement fausses parce que le mystère du mal, eh bien, il traverse toute l'histoire de l'humanité. Mais lorsque saint Jean, dans sa première lettre au chapitre 2, parle de l'antichrist, il le décrit d'abord et avant tout comme une figure antitrinitaire. Et c'est là que c'est intéressant parce que l'Antichrist, dit-il, c'est d'abord et avant tout celui qui nie le Père et qui nie le Fils et qui n'a pas reçu l'onction. Donc, qui nie aussi, qui n'est pas sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Donc, l'Antichrist, c'est une figure anti-trinitaire qui va rassembler, réunir en lui tout ce qui s'oppose à Dieu, mais en même temps, qui va singer Dieu, le caricaturer pour mieux prendre sa place. Et on va trouver donc dans la littérature apocalyptique, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, eh bien ces trois figures qui sont des caricatures du Père, des caricatures du Fils et des caricatures de l'Esprit Saint. Donc dans le chapitre 13 notamment du livre de l'Apocalypse, où on a d'abord le dragon, puis la bête de la mer, et la bête de la terre, dans lesquelles on peut retrouver des caricatures donc de ces trois figures trinitaires, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, je vous ai fait un petit tableau pour vous aider à suivre cette structure trinitaire qui traverse un peu en filigrane l'étude que j'ai faite et qui montre comment le diable, depuis l'origine, va s'efforcer de détruire en l'homme l'image du Dieu trinitaire. On a été fait à l'image de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et l'objet du diable, eh bien, ça va être de détruire cette image. Et si on est attentif à différents passages de l'Écriture, notamment à ce chapitre 13, mais pas seulement, eh bien, on va découvrir comment, par quels artifices, justement, l'Antichrist, le diable, eh bien, va singer cette Trinité, à travers trois caractéristiques majeur de l'Antichrist. La première, c'est que c'est l'homme sans loi, comme le dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 2, verset 3. À la fin des temps viendra l'homme sans loi, l'anomos, celui qui est sans loi, contre la norme. Et on retrouve également cela dans le chapitre 7 du livre de Daniel, cette figure d'Antiochus Épiphane, qui est une préfiguration de l'Antichrist, eh bien, médite d'abroger les lois et les temps. Donc, première caractéristique de l'Antichrist, c'est qu'il est opposé à la loi de Dieu, bien sûr, à la loi naturelle, et il s'oppose ainsi à la figure d'autorité, mais d'autorité bonne, qui est celle du Père. Donc ce refus de l'autorité, cette contestation de la loi, c'est le propre de l'Antichrist qui rejoint également la figure de Babel, l'homme qui veut se faire sans Dieu et contre Dieu, et qui rejoint aussi, je ne développe pas, mais j'en parle dans mon ouvrage, le projet maçonnique de l'homme qui se fait lui-même indépendamment de Dieu. Donc, première caractéristique de l'Antichrist, c'est l'homme sans loi qui s'oppose à la figure du Père. La deuxième caractéristique de l'Antichrist, c'est qu'il est séducteur. Il est séducteur et menteur, comme il est dit dans le livre de Daniel au chapitre 11. Il va séduire en proposant quelque chose de doux, de facile, il va exalter le bien-être matériel, la puissance économique, la consommation, on pourrait dire, comme on le voit d'ailleurs dans le livre de l'Apocalypse, hein, où de nos jours, eh bien, la technologie, l'intelligence artificielle peut-être, en tout cas, il va séduire par des artifices flatteurs et qui exaltent la personne aux dépens des autres. Hein. Donc une certaine exaltation de la perfection, perfection matérielle ou bien du confort, du bien-être, du plaisir, au mépris des plus petits. C'est en quelque sorte l'homme qui se fait sans Dieu, l'homme matérialiste, perfectionniste, qui est l'antithèse du Fils qui, lui, se donne pour les autres, pour les plus petits, dans la plus grande pauvreté, celle de la croix. Donc, première caractéristique de l'Antichrist, c'est l'homme sans loi. Deuxième caractéristique, c'est le séducteur et le menteur qui cherche la perfection matérielle. Troisième caractéristique de l'Antichrist, il est orgueilleux et individualiste. Alors, on le voit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, avec tous les faux Christs, mais également dans la deuxième aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 4, où il est dit que cette figure de l'homme sans loi va essayer de s'emparer du trône de Dieu, prendre la place de Dieu, comme on le voit également aussi dans le livre de l'Apocalypse, hein, où cette figure, hein, maléfique, eh bien, essaie de se faire passer pour Dieu dans une volonté de toute puissance et de domination qu'il va exercer en accomplissant des prodiges pour se faire passer pour Dieu. C'est une forme de volontarisme de celui qui veut être à la place de Dieu et donc une antithèse de l'Esprit Saint et de celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint en toute humilité. Voilà donc ces trois caractéristiques de l'Antichrist qui est à l'origine du mystère de l'iniquité sont finalement une œuvre de subversion à travers donc ces trois ismes, hein, que sont l'idéalisme, ma propre idée à la place de la réalité voulue par Dieu, le perfectionnisme contre le Fils et le volontarisme donc contre l'œuvre de l'Esprit-Saint. Voilà, donc ça c'est tout ce que j'essaie de développer dans cette première partie qui est une forme de décryptage du mystère d'iniquité pour nous rendre attentifs au soubassement spirituel de l'œuvre du mal dans le monde dont on aperçoit parfois que les aspects matériels et dont on oublie de discerner les causes plus profondément spirituelles. Cette œuvre de subversion du mal dans le monde qui essaie de détruire l'image de Dieu en l'homme. Alors, deuxième partie, eh bien, comment faire face à cette situation, à ce développement du mal dans le monde? Il y a trois attitudes qui sont présentes dans l'évangile de Matthieu, mais qu'on retrouve également dans la correction qui est faite aux sept églises de l'Apocalypse, au chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, et d'une manière plus éloquente encore, au chapitre 6 de la lettre de saint Paul aux Éphésiens, et qui se résume, ces trois attitudes, en trois mots, tenir, lutter, veiller. Donc c'est intéressant de voir que dans beaucoup de textes apocalyptiques, eh bien, on retrouve ces trois conseils donnés par Dieu, tenir, lutter, veiller, qui correspondent, autrement dit, à l'attitude du martyr, qui persévère face à l'adversité et face au mal sans se décourager, l'attitude du prophète, qui va tenir ferme et lutter pour dénoncer le mal et annoncer le bien, c'est le sens de la mission d'évangélisation de l'Église, et la figure du veilleur qu'on retrouve là aussi, qui traverse toute la Bible, je pense en particulier au livre d'Isaïe ou bien au psaume, hein, où voilà, le livre d'Isaïe, sur tes remparts, Jérusalem, je placerai des veilleurs, ni de jour ni de nuit, ils ne doivent se taire, et cette dimension de l'Église et du croyant qui doit veiller dans la prière et la vie sacramentelle. Donc cette première attitude de l'Église en réaction donc au mystère de l'iniquité, c'est là qu'on rentre dans l'espérance, eh bien, c'est à travers le mal de vivre la passion avec le Christ, dans une attitude de compassion, hein, donc de pâtir avec le Christ pour être finalement témoin de Pâques, témoin de la résurrection. La vie est un passage et l'Église est un passeur pour accomplir à travers eh bien, tout ce mystère de l'iniquité un chemin de vie qui porte l'espérance du salut. Et l'Église est amenée dans ce contexte-là à porter le péché du monde, à rejoindre les plus faibles dans leur douleur, à servir les plus petits en comprenant que dans le regard de Dieu, aucune souffrance est vaine si elle est vécue et portée avec le Christ qui est venu nous rejoindre justement dans toutes nos souffrances, toutes nos difficultés pour nous conduire à une plus grande gloire. Voilà donc la première attitude du martyr qui, comme le dit le catéchisme de l'Église catholique, hein, signifie que l'Église, à la fin des temps, est appelée à suivre le Christ dans sa passion et elle n'entrera dans la gloire qu'en le suivant à travers cette ultime épreuve, cette ultime Pâque que lui-même a vécue. Hein. Donc le martyr, ce n'est pas juste un pâtir, hein, mais c'est un pâtir fécond, hein, qui comprend que dans la passion, il y a aussi la préparation d'une résurrection et d'une gloire que Dieu a préparée pour nous. Donc ça va se traduire bah, par les œuvres notamment de charité. La deuxième attitude, c'est celle du prophète, hein, qui consiste à dire le bien et à dénoncer le mal caché. Donc j'ai un petit passage dans le livre sur le fameux catéchone, donc qui est une hypothèse d'étude et de lecture, hein, qui est ce mystérieux retenant qu'on trouve dans l'Écriture, hein, toujours dans la lettre aux Thessaloniciens. Donc on ne sait pas très bien ce que c'est celui qui retient ce mystère d'iniquité. Et je propose, en appui d'une exégèse originale sur ce sujet, de dire que ce n'est pas seulement celui qui retient, mais celui qui contient. Donc le mal est à la fois contenu dans les deux sens du terme, parce qu'il est circonscrit et en même temps il ne peut pas se déployer complètement. Et l'Église est amenée donc face à cette situation, eh bien à dénoncer le mal qui parfois se cache sous les apparences du bien. Et là aussi, on peut en voir bien des exemples dans notre actualité. À ne parler par exemple que de la question d'actualité de l'euthanasie. Et face à cette situation, bah, l'Église est appelée véritablement à porter une parole qui va dénoncer ce mal et dire le bien pour servir finalement la liberté, c'est-à-dire cette vérité qui véritablement rend libre contre toutes les idéologies qui prétendent se faire Dieu à la place de Dieu pour remettre Dieu à sa place et puis l'homme également à sa place, c'est-à-dire toute chose en ordre. Donc servir la liberté en permettant eh bien, que toute chose soit selon l'ordre même voulu par Dieu. Et l'Église est à ce titre aussi, quand je dis l'Église, il s'agit de tous les croyants et plus largement, je pense, de tous les hommes et femmes de bonne volonté. L'Église est servante de la paix et de l'unité parce que seule un principe transcendant, plus grand que nos propres opinions, peut permettre une véritable paix et de se rassembler dans l'unité. Sinon, chacun reste dans ses opinions et on va chercher, dans le meilleur des cas, un consensus, mais qui risque toujours de ne jamais satisfaire tout le monde. Donc, l'Église est invitée à jouer dans ce cadre-là un rôle politique qui la fasse sortir de cette privatisation dans laquelle on veut parfois l'enfermer. On entend souvent dire que la foi, la religion, c'est quelque chose qui relève du privé. Eh bien non, l'Église est appelée, les croyants sont appelés à porter une parole de liberté, de paix et d'unité qui a une valeur universelle parce que le Christ est venu pour tout homme et pour chaque homme. Voilà, donc ça c'est une invitation et une exhortation à être des croyants décomplexés, conscients de cette valeur et ce trésor extraordinaire de l'Évangile qui est pour tous, qui est véritablement universel. Et puis troisième aspect, donc celui du veilleur, de la veille, qui est illustré de manière toute particulière par la vie religieuse. la vie monastique, mais également par tous les croyants qui puisent dans la prière, eh bien, cette espérance fondamentale de l'alliance que Dieu a voulu vivre avec les hommes et que l'Église est appelée à incarner. Donc, derrière cette figure du veilleur, il y a la figure de l'Église épouse du Christ époux, qui est invité à incarner donc d'une manière très concrète dans ses structures, dans ses modes de fonctionnement, dans l'adéquation des charismes et des ministères, une représentation qui soit la plus juste possible de cette alliance que Dieu veut faire avec le monde. Donc il s'agit de l'incarner donc dans toute la vie de l'Église et d'une manière toute particulière dans l'Eucharistie, qui est le cœur de la vie chrétienne, hein, la source et le sommet de toute cette vie chrétienne, et qui est porteur de sens pour anticiper et annoncer ce royaume qui vient et que nous prions donc à chaque fois que nous disons dans le Notre Père, comme on l'a récité tout à l'heure, que ton règne vienne. Hein, c'est le sens de toute la vie de l'Église, c'est de faire advenir dans la réalité concrète de notre vie ecclésiale ce règne de Dieu. C'est pas un règne pour plus tard, c'est un règne qui commence déjà aujourd'hui. Que ton règne vienne, c'est à nous d'y contribuer par notre vie de prière et puis aussi le service de nos frères et sœurs. Donc ces trois dimensions du martyr, du prophète et de l'épouse, elles correspondent finalement, comme je vous l'ai mis donc dans ce petit tableau, aux trois caractères du baptême qui nous fait prêtre, prophète et roi. Hein, donc, je vous invite à vous y référer pour plus de clarté. Et ces trois dimensions baptismales, hein, prêtre, prophète et roi, sont servies par les trois charges ministérielles des évêques, hein, puisqu'on m'a dit que je ne parlais pas des évêques. Et ben voilà, les évêques, ils sont ordonnés pour gouverner, sanctifier et enseigner. Hein. Le gouvernement, il va être au service du prophétisme des baptisés, hein, en organisant les charismes et les ministères notamment, qui va permettre la diffusion de la foi. Ils sont ordonnés pour sanctifier, c'est-à-dire augmenter la charité, hein, et qui la charité qui est la véritable royauté dans l'Église, hein, et qui fait de nous des rois, à l'instar du Christ. Et puis, les évêques sont chargés d'enseigner, c'est-à-dire de nourrir l'espérance chrétienne et qui permet à tous les baptisés d'exercer un véritable sacerdoce, c'est-à-dire le véritable culte qui est tourné vers cet avènement du royaume. Alors, je fais une petite parenthèse parce que si vous avez été attentif aux lectures du dimanche passé, eh bien, on voit que Jésus, avant de multiplier les pains, hein, il enseigne, il guérit. Et puis ensuite, donc, il nourrit. Hein. Donc, il va nourrir la foi. Et pour nourrir la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit à ses disciples, faites-les asseoir. Il leur donne un ordre. Hein, et ensuite, donnez-leur vous-même à manger. Donc, il est bien dans une posture de gouvernement, d'autorité, pour nourrir la foi. Au préalable, on a dit qu'il guérissait. Guérir, c'est soigner, c'est prendre soin. C'est aussi le salut, hein, le salut du corps, le salut de l'âme. Hein. Et puis il enseigne. Et qu'est-ce qu'il enseigne? Eh bien, comme par hasard, il parle du règne de Dieu, qui est notre espérance. Voilà. Donc vous voyez que je n'invente rien. C'était dans l'actualité de la parole de ce dimanche, fête du corps, du Saint-Sacrement, du corps et du sang du Christ. Là aussi, comme par hasard, on retrouve ça au cœur du mystère de l'Eucharistie. Voilà, donc tout cela, eh bien, contribue à restaurer en nous cette vie trinitaire, hein, cette image du Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que le diable, eh bien, s'ingénie, pardon, à falsifier en nous. Alors, la restaurer, très bien, mais pourquoi? Eh bien, c'est la dernière partie, troisième partie de cet ouvrage et de cette conférence. En vue de quoi? Eh bien, en vue du royaume. Et lorsqu'on parle du royaume et de l'eschatologie, il y a deux questions qui peuvent se poser. D'abord, qu'est-ce qu'il va advenir au moment de la fin, c'est-à-dire quand ça sera vraiment la fin, parce qu'un jour, tout ça va s'achever. Ça, c'est pas une prophétie, un Nostradamus, hein, c'est scientifique. Le monde, un jour, s'arrêtera, comme notre vie, un jour, se terminera par notre mort personnelle. Alors, qu'est-ce qui va se passer au temps de la fin et qu'est-ce qui va advenir ensuite, puisque tout est orienté vers cet avènement du Christ en nous que nous sommes appelés à, auquel nous sommes appelés à contribuer. Alors, le temps de la fin, il est d'abord marqué par des jours de ténèbres. Donc ça, on le voit dans, là aussi, toute la littérature apocalyptique. C'est ce qu'on en retient le plus souvent et c'est ce qui fait peur. Voilà. Mais après les ténèbres viennent la lumière, pourvu qu'on se tourne vers cette lumière. Alors peut-être que vous entendez beaucoup parler aujourd'hui, en tout cas dans les réseaux sociaux, sur Internet, on voit beaucoup de prophètes de malheur qui annoncent des catastrophes imminentes et puis cette imminence de la fin des temps. Ce n'est pas nouveau, hein. Il y avait la grande peur de l'an 1000, il y a eu la grande peur de l'an 2000, et puis maintenant il y a celle de 2025, et ça continuera jusqu'à ce que la fin advienne. Donc moi je ne vais pas vous dire c'est pour demain, ou c'est vrai, ou c'est faux, parce que Jésus lui-même ne répond pas à cette question, comme je l'ai dit en préambule. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de trouver dans l'Écriture des critères pour discerner ces prophéties et comment est-ce qu'il faut les recevoir. D'abord, recevoir les prophéties de l'Écriture, bien sûr, et puis peut-être de certaines personnes qui sont inspirées pour pouvoir remettre en avant ces prophéties qu'on a peut-être parfois tendance à oublier, hein. Donc, ça a été le cas, par exemple, à Fatima, hein, les apparitions de Fatima, qui sont quand même reconnues, ou d'Akita au Japon, un petit peu plus récemment. Et j'invite eh bien, à adopter les critères de discernement du cardinal Ratzinger à l'époque, futur Benoît XVI, qui, lorsqu'il a divulgué le troisième secret de Fatima, a rappelé qu'il ne s'agissait pas de les prendre d'une manière trop littérale, ni exclusivement symbolique, mais de comprendre que à travers le message qui était donné, il y avait d'abord et avant tout un appel à la conversion, à la pénitence, à la prière et à la veille, c'est-à-dire à une attitude spirituelle fondamentale pour ouvrir son cœur à cette présence de Dieu dans notre vie. Voilà, donc ça c'est pour les jours de ténèbres donc, qui précèdent ce temps de la fin et qui nous invitent aujourd'hui à avoir cette juste attitude de conversion pour se préparer au jugement qui interviendra, soit qu'il soit individuel au jour de notre propre mort, soit à la fin des temps, et qui est concomitant avec la parousie. Dans le chapitre 24 de Matthieu, on voit bien que l'avènement du Christ dans sa gloire est concomitant au jugement, qui distingue donc les élus de ceux qui refusent d'entrer dans la gloire. Et le critère du jugement, c'est le Christ lui-même. Dans le livre de l'Apocalypse, on voit on ouvre un livre et on ouvre des livres. Le livre, c'est le livre de la vie du Christ, hein, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et les livres qu'on va ouvrir, ce sont les livres de nos propres existences pour les confronter les uns à l'autre, celui du livre de vie, hein, qui est le Christ, pour voir comment eh bien, notre vie s'est conformée à cette vie de charité du Christ, hein, pour que nous puissions eh bien, entrer avec lui dans la gloire qu'il promet à ceux qu'il aime. Voilà. Alors, que va-t-il arriver ensuite? Eh bien, la restauration finale, qu'on a parfois mal compris aussi et qui a donné lieu à un certain nombre d'hérésies à partir du terme de l'apocatastase, qui est la restauration finale ou la récapitulation qu'on trouve au chapitre 3, versets 20 et 21 des Actes des Apôtres. Donc, Actes 3, 20, 21, il est question d'une restauration finale. Saint Paul en parle aussi dans sa lettre aux Éphésiens au chapitre 1 ou dans la première aux Corinthiens au chapitre 15. Et on a pu penser que à la fin des temps, tout allait être repris. Et puis, comme le disait effectivement Michel Polnareff, on ira tous au paradis. Voilà. C'est peut-être pas tout à fait exactement comme ça qu'il faut le comprendre. Parce que la parole de Dieu nous invite à considérer qu'effectivement, à la fin des temps, tout sera soumis au Christ, c'est-à-dire tout sera remis en ordre sous la domination du Christ, mais chacun à sa place, les élus avec lui et les damnés eh bien, sous ses pieds. Voilà, comme il est dit dans la parole de Dieu. Donc il vaut mieux être à côté de lui que sous ses pieds, je pense que ça sera plus confortable, mais là encore, ça ne doit pas nous faire peur, hein, puisque le Christ eh bien, veut que tout homme Dieu veut que tout homme soit sauvé, hein, nous dit encore l'Écriture, et il nous suffit eh bien d'accueillir cette gloire qui, comme il est rappelé dans le livre de l'Apocalypse, hein, dans son dernier chapitre, est représentée sous la forme de cette Jérusalem céleste qui descend du ciel. Donc ce n'est pas notre propre mérite, notre seul mérite, c'est d'accueillir cette gloire qui descend du ciel, accueillir cette grâce qui vient de Dieu pour restaurer toute chose dans son état tel qu'il était voulu à l'origine par Dieu. Donc il y a une recréation, comme on le voit à la fin du livre de l'Apocalypse, avec des cieux nouveaux, une terre nouvelle, donc une reprise de toute chose selon l'ordre voulu par Dieu dès l'origine. Voilà, et je termine par une question qui peut être une question disputée sur les temps intermédiaires, où effectivement on a une intéressante confrontation entre Saint-Irénée et Saint-Augustin qui imagine un peu diversement cette suite de l'avènement du Christ dans la gloire. Pour Saint-Irénée, il y aura un temps intermédiaire de paix avant cette glorification totale, alors que pour Saint-Augustin, eh bien, voilà, il y a le jugement, la parousie et puis bah, l'entrée dans la gloire sans ce temps intermédiaire. Donc on a pu reprocher à Saint-Irénée d'avoir une position qui était un petit peu qui était millénariste, hein, ce qu'on appelle le millénarisme mitigé, qui veut que avant l'entrée dans la fin des temps et l'entrée dans la gloire, eh bien, il y ait ces 1000 ans de paix et de règne du Christ. Alors pour Irénée, c'est pas véritablement un règne matériel, temporel, c'est un règne spirituel. C'est pour ça qu'on parle alors de millénarisme mitigé. Mais voilà, cette question du millénarisme est encore bien vivante dans les pensées aujourd'hui et donc bah, est une question qui reste, enfin, qui a été tranchée hein, par l'Église d'une manière claire hein, en disant que c'était une hérésie de penser que le temps de la fin serait précédé par un temps intermédiaire de règne avec le Christ pour les élus. Voilà. Mais la question peut encore être débattue, notamment au plan d'un point de vue œcuménique, puisque ce n'est pas toujours très clair cet avènement qui suivra, donc la parousie, la révélation du Christ dans sa gloire. Voilà, donc en conclusion, bah, je pense qu'il y a un point fondamental qui me semble intéressant à relever, c'est ce caractère passionnant de la littérature apocalyptique et eschatologique, donc de ce que nous dit l'Écriture sur le temps de la fin, et qui nous encourage à le lire avec attention parce que c'est une clé de lecture spirituelle pour chacun de nous. Voilà, il y a véritablement dans cette littérature des clés pour conduire sa vie selon cette finalité qui nous est proposée par Dieu d'entrer dans sa gloire et de faire face, eh bien, à toutes les difficultés que tout un chacun peut rencontrer dans sa vie en gardant cette espérance du royaume qu'il est venu nous annoncer. Donc, dans la littérature apocalyptique, on trouve des clés très concrètes pour pouvoir conduire sa vie vers cette perspective heureuse qu'est l'avènement du royaume des cieux. Donc, c'est intéressant d'étudier les fins dernières pour déceler ces clés qui sont très concrètes pour notre vie quotidienne. Ensuite, eh bien, elle nous aide à interpréter aussi les signes des temps, c'est-à-dire à ne pas subir uniquement l'actualité telle que nous la vivons. Et aujourd'hui, on est abreuvé quotidiennement de mauvaises nouvelles, mais pour pouvoir se situer d'une manière juste par rapport au mal et de ne pas tomber soit dans un catastrophisme outré ou bien dans une forme d'indifférence et de lassitude qui nous conduit à l'impuissance, alors qu'au contraire, la parole de Dieu nous invite à l'action concrète face à ce déchaînement du mal, mais à nous poser d'une manière juste là où nous sommes pour qu'on puisse bah, réagir et ne pas seulement subir le monde tel qu'il va. Et puis enfin, troisième aspect que je souligne en conclusion, eh bien, c'est d'incarner concrètement dans notre vie personnelle et dans notre vie communautaire en Église ce caractère d'épouse du Christ qu'est l'Église, pour vivre véritablement une réalité de communion. Le Concile Vatican II a beaucoup parlé de l'Église comme d'une communion, l'Église corps du Christ et l'Église communion, mais la sponsalité vient qualifier cette ecclésiologie de communion en disant, mais voilà, l'Église, elle est une réalité de communion fraternelle entre nous et avec Dieu, hein, dans cette réalité de l'alliance. Et cette communion, justement parce qu'elle est une alliance, elle est une communion de nature sponsale. Voilà. Donc l'Église, comment peut-elle véritablement incarner dans sa réalité quotidienne, dans nos groupes de prière, dans nos communautés d'Église, à la messe, cette réalité de l'épouse, hein, qui attend, vigilante et fidèle, l'avènement du Christ dans la gloire. C'est cette perspective heureuse vers laquelle nous sommes conduits à la lumière de l'Évangile. Merci beaucoup. Alors on peut prendre peut-être une petite minute pour digérer tout ça et je me ferai une joie d'entendre vos réponses. Je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes vos questions. Je ne sais pas si je pourrai répondre à toutes. Mais on pourra échanger en tout cas avec joie.
On fera circuler le micro. Vous levez la main et puis je vous passe le micro.
Puis s'il y a des personnes peut-être en et,
vision. Oui, aussi. À distance. Le plus simple, c'est de poser une question dans la conversation, ce qu'on appelle le chat. Et je la publierai devant l'Assemblée.
J'ai une question au bout, sur les bancs.
Passe le micro. Juste une petite question technique. Dans le Second Testament, on parle d'Antichrist. Est-ce qu'il y a son pendant dans le Premier Testament, puisque Christ est le mot grec, est-ce qu'il y a un anti-messie?
Alors, oui, c'est Antiochus Épiphane qui est vraiment représenté comme l'incarnation du mal, en particulier dans le livre de Daniel. Voilà. Alors, il y a peut-être d'autres figures, mais vraiment, Antiochus Épiphane, c'est l'archétype de celui qui va persécuter les Juifs, hein, pour leur faire abandonner leur propre loi et qui, dès lors, va incarner toute cette figure maléfique, en fait. Je ne sais pas si Isabelle, tu veux rajouter quelque chose.
Dans l'Ancien Testament, il y a la figure de l'adversaire,
Oui,
le Satan, mais c'est un peu
le
différent.
Satan, voilà.
C'est un peu différent de la question de l'Antichrist. Je pense qu'on ne peut pas tout à fait les penser en superposition.
Oui, non, c'est vrai que même Antiochus Épiphane, c'est un peu différent, mais l'adversaire, le Satan, hein, qui est présent dès les origines, hein, dès le chapitre 3 de la Genèse et qu'on retrouve dans l'Apocalypse sous la figure du dragon, il va être incarné d'une certaine manière. Alors, pardon, je me fais bien comprendre, c'est pas Satan qui s'incarne comme le Christ s'est incarné, hein, mais il va être porté par des figures maléfiques et dont celle d'Antiochus Épiphane.
Est-ce qu'il y a une je pose une question, Charles. Est-ce qu'il y a une est-ce que vous avez perçu dans votre travail et puis peut-être à la relecture de ce que vous avez fait une dynamique du monde, c'est-à-dire est-ce que le monde je sais pas parce que bien sûr on parle du progrès technique, etc., mais est-ce que vous avez perçu une dynamique porteuse ou au contraire destructrice?
Alors, il y a une dynamique qu'on retrouve d'une certaine manière aussi dans le livre de l'Apocalypse. La structure du livre de l'Apocalypse, hein, c'est qu'elle se, il se répète, hein, avec des septennaires, les sceaux, les coupes, etc., qui vont à chaque fois redire la même chose, en gros, mais en insistant ou en s'amplifiant. Pour faire prendre conscience qu'il y a cette croissance du mal, hein, qu'on retrouve là aussi dans l'Évangile avec la parabole du bon grain et de l'ivraie, qui grandissent ensemble et qui correspond à une réalité qu'on peut constater dans notre monde. Le mal s'amplifie, bah, simplement parce qu'on est plus nombreux, j'ai envie de dire, et parce que le phénomène de mondialisation fait que tout va vite se généraliser. Donc oui, il y a une amplification du mal, ça je pense que c'est on peut le constater. On peut peut-être dire qu'il y a une amplification du bien aussi, hein. Voilà, c'est à voir. Enfin, je pense que c'est difficile de quantifier. En tout cas, ce phénomène de croissance et d'expansion qui est là encore qui est scientifique, hein. L'univers est en expansion, le temps s'accélère, ça c'est scientifique. On le voit dans notre actualité avec ce phénomène de globalisation. Et on le voit aussi, c'est ça qui est intéressant, dans l'écriture, en particulier dans le livre de l'Apocalypse, où on voit que alors c'est un procédé littéraire, hein, qui veut montrer cette amplification, mais il y a quelque chose, il y a une conjonction, en tout cas, de l'écriture qui nous permet de répondre à ce phénomène qu'on constate, quoi.
Qui rassure, mais Jésus parle quand même de famine, de guerre, enfin de beaucoup de choses. Et comment nous, on doit, bon, prier, d'accord, mais enfin, on n'est pas tous non plus, on va peut-être renier, on va peut-être apostasier. Comment vivre ce temps qui va arriver, qui sera pas facile non plus?
Voilà, donc ça c'est les jours de ténèbres, donc qui précèdent effectivement le temps de la fin, hein, mais qui se déploie aussi dans notre vie personnelle et dans toute l'histoire de l'humanité et qui nous invite, eh bien, à la veille, à la vigilance. Après le chapitre 24 de Matthieu, hein, il est précédé par ces appels à la vigilance. Et donc à cette conscience, pardon, il est précédé, non, il est suivi, hein, par cet appel à la vigilance, avec par exemple la parabole des 10 vierges ou la parabole des talents, hein, avant le jugement dernier. Donc, si on simplifie un petit peu, il y a un temps de trouble, de persécution, d'épidémie, de guerre, de rumeurs de guerre, etc. Le Christ nous dit veillez, hein, soyez attentifs. Hein, préparez-vous justement pour que vous n'ayez pas à le renier lorsque le temps de la fin viendra. Soyez prêts, ne soyez pas surpris, ne vous effrayez pas, ce n'est pas encore la fin, hein, dit-il à ses disciples. Et c'est ça qu'on a à entendre aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, face au mal, ne vous effrayez pas, continuez d'avoir confiance, hein, parce que, comme on l'a rappelé en introduction, moi je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà. Alors comment est-ce qu'on demeure justement dans cette présence du Christ qui porte notre vie. C'est toute l'attitude de vigilance, hein, de l'épouse vigilante et fidèle, mais qui est appelée aussi à être prophète pour annoncer cette bonne nouvelle du royaume et à vivre, à traverser la passion avec le Christ, mais en gardant cette espérance que au terme de la passion vient la résurrection. Tout ce chemin de Pâques, hein, que le Christ a vécu pour nous, que nous vivons chacun personnellement, et que le monde est appelé à vivre également. Voilà, je ne sais pas si ça répond. Et mais ça ne va pas être facile, mais la croix, ce n'était pas facile. Voilà, le signe du Fils de l'homme, bah, c'est... Oui. Voilà, bah, ça, c'est le... C'est le signe du Fils de l'homme, c'est-à-dire c'est le Christ, hein, qui paraît dans sa gloire, c'est ce qu'on appelle la parousie, hein, et que l'Église est appelée à manifester le rôle de l'Église, des croyants et encore une fois de tous les hommes et femmes de bonne volonté, eh bien c'est d'ouvrir à cette perspective pour pouvoir reconnaître ce signe et s'y préparer, hein. L'Église est Apocalypse, j'aime bien dire, parce que l'Église, elle est révélation. Elle est là pour révéler, pour rendre visible ce qui est caché, pour que cela ne nous effraie pas, hein, et qu'on ne perde pas ses moyens lorsque ces troubles adviendront, mais qu'au contraire, eh bien, on puisse garder cette espérance. Parce que là aussi, hein, dans le livre de l'Apocalypse, hein, il est dit plusieurs fois, hein, que les suppôts du démon, hein, du diable, hein, chercheront à perdre, s'ils le peuvent, même les saints, hein, même les élus. Voilà. Et il viendra siéger dans la cité bien-aimée. Alors, qu'est-ce que c'est la cité bien-aimée? Est-ce que c'est Rome? Est-ce que c'est Jérusalem? Est-ce que c'est l'Église en général? Est-ce que c'est le sanctuaire de notre âme? Un petit peu tout ça à la fois, je pense. Mais voilà, il y a un combat spirituel qui existe, qui est présent dans notre monde, qui est présent dans notre vie, et dont il convient d'être lucide pour pouvoir en décrypter les rouages, hein, afin de ne pas se laisser abuser par les faux prophètes, hein, mais de savoir reconnaître le Christ quand il viendra. Hein. Et le Christ, quand il viendra, trouvera-t-il la voie sur terre? Ben, bien sûr. Voilà. Oui, Jésus, 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 mais oui, il ne s'agit pas de dire Seigneur, Seigneur, hein, mais aussi, n'oublions pas, hein, le critère du jugement dernier, Matthieu 25, hein, c'est ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Hein. Ce n'est pas celui qui criera Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume de Dieu. Donc c'est très concret, hein, c'est-à-dire que c'est pas, il n'y a pas de passivité. Bien sûr qu'il faut prier, bien sûr qu'il faut veiller, bien sûr qu'il faut vivre des sacrements, avoir une vie chrétienne de foi, hein, et d'espérance tournée vers le royaume, mais qui ne doit pas être un quiétisme, qui doit être une foi active. Et cette foi active, eh bien, elle se traduit dans les œuvres de charité qu'on peut accomplir en prenant soin des plus petits, comme le Christ lui-même nous a montré l'exemple. Et c'est en ça qu'il est le chemin. Donc être christocentré, oui, pourvu qu'on conforme notre vie à la vie du Christ. Tenez le micro, parce que sinon, je pense qu'ils ne vous entendent pas, ceux qui sont en visio.
Vous avez dit, lorsque le Christ viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Pourriez développer?
Alors oui, ça c'est dans l'écriture, j'ai plus la référence exactement, c'est dans Luc je crois, oui, bah, c'est-à-dire que le Christ attend de nous la foi, c'est la confiance. Hein. Est-ce que nous avons confiance en son retour et est-ce qu'on oriente notre vie, est-ce qu'on organise notre vie dans cette perspective de l'avènement du Christ? Voilà, donc la foi, c'est cette. Jésus, hein, il dit, enfin, je crois que c'est Luc, hein, qui dit ça, hein, le Christ, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Il me semble, sauf erreur de ma part, que c'est après la parabole de la veuve importune, hein, qui vient par ses prières demander que lui soit fait justice. Hein. Et est-ce que nous avons suffisamment de foi pour attendre et nous préparer à cet avènement du Christ dans notre vie. Parce que c'est ça tout le sens de notre vie, c'est de permettre cet avènement, ce déploiement du Christ en nous. Est-ce qu'on s'y prépare d'une manière active, comme je viens de le dire, par la charité fraternelle, par la prière, par l'attention, par cette annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile? Ou bien est-ce qu'on sombre dans une forme d'indolence et d'indifférence qui nous fait passer à côté de cet événement que le Christ veut venir réaliser en nous, de réaliser cette alliance. Hein, donc la foi, vivre de la foi, eh bien c'est vivre de cette confiance que le Christ est là avec nous jusqu'à la fin du monde et que cet avènement, il se prépare tout au long de notre vie, à travers tous les actes bons qu'on peut poser, à travers nos prières, à travers notre communion fraternelle et ecclésiale. Voilà.
Oui, est-ce que ces réalités de décrire
On est dans le micro.
En perspective, ça pourrait donner lieu à une encyclique, non?
Ah ben, écoutez,
Charles, tu veux dire? Une encyclique de Charles?
Je ne suis pas pape. Non, merci. Non, mais cette question de la fin des temps, mais elle est quand même très présente dans le magistère. Mais c'est vrai que c'est peut-être. Il y a tout un magistère sur l'espérance hein, qui existe. Hein, donc ça existe déjà. Et puis on en retrouve des traces dans d'autres encycliques. Hein. Caritas in Veritate, par exemple, était un bel exemple de cette nécessité de prendre garde à l'illusion techniciste et ne pas oublier le prendre soin quotidien de notre humanité, hein, donc de ce qu'il y a de plus humain en nous. Et le pape François, dans son encyclique Laudato si, eh ben, il a remis ça aussi. Hein, donc il y a quand même toute une continuité du magistère autour de l'espérance et de cette mise en garde en fait de l'illusion techniciste ou idéologique hein, pour remettre Dieu au centre. Et puis bah, l'homme aussi au centre. Le véritable progrès, il n'est pas seulement le progrès de la science, il est le progrès de la science dans la mesure où elle permet à l'homme de devenir meilleur, de devenir plus humain, de prendre davantage soin. C'est ça l'humanité. Voilà. Donc, et c'est ça notre espérance, en fait. C'est là qu'on peut contribuer activement à cet avènement du royaume.
Une question à distance plus personnelle qui était posée. Qu'a changé ce travail du ministère de prêtres et de pasteurs?
Ça, c'est une bonne question. Alors, moi, je dirais, c'est cette découverte, ou plutôt cet approfondissement de cette réalité de la Trinité abominable, qui n'est pas une invention de ma part, qui vient de mon père spirituel, qui m'avait parlé de ça, et j'avais trouvé que c'était vraiment une clé de discernement de tous les travers de notre vie, hein, l'individualisme, le perfectionnisme et le volontarisme. Et moi, ça m'aide personnellement dans ma propre vie spirituelle et dans les accompagnements spirituels que je peux faire. Bah, c'est pour moi une clé de lecture, hein. Comment est-ce que la figure du Père est travestie en moi ou dans les personnes que je vais accompagner, comment la figure du Christ est caricaturée, comment la figure du Saint-Esprit vient à être caricaturée aussi. Voilà, donc moi je trouve que dans ma vie de pasteur, eh bien cette lecture trinitaire, de la vie trinitaire qui est appelée à se déployer en nous et qui est contredite hein, par tous les artifices de l'adversaire, eh bien c'est très aidant pour pouvoir construire avec sa vie avec justesse. Voilà.
Attendez, madame. Attendez, on va passer. Vous avez, je vous en prie. C'est qu'il y a une question au fond. Bonjour. Oui, juste une petite précision parce que j'ai peut-être mal entendu quelque chose. Lorsque vous avez parlé précisément des trois aspects, des trois vices contraires, donc dans cette trinité abominable, vous avez parlé d'abord de l'homme sans. Vous
Oui.
avez répété plusieurs fois, l'homme opposé à la loi. Et là, je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais vous avez dit opposé à la loi de Dieu. Et là, j'ai entendu, c'est-à-dire la loi naturelle. Est-ce que j'ai entendu juste ou est-ce que j'ai entendu faux?
Non, c'est-à-dire que c'est la loi de Dieu et également qui est inscrite dans notre nature fondamentale aussi. Donc c'est les deux, mais je ne confonds pas la loi de Dieu et la loi naturelle. Hein, c'est cet ordre voulu par Dieu qui est inscrit dans la loi naturelle, qui s'exprime dans le décalogue, hein, qui est cette volonté bonne de Dieu qui veut nous faire à son image. Voilà. C'est ça fondamentalement. Je ne sais pas si ça répond. Donc les deux sont liés, mais ne se confondent pas. C'est pas la même réalité. Oui.
Merci mon père. Et je voulais parler de quelque chose toute une littérature qu'on voit sur Internet de prophètes en ce moment qu'on peut trouver Luz de Maria, le père Rodrigue, etc. Qui parlent donc c'est quand même assez concret. Je dirais pas que vous avez cité des prophètes de malheur et des pas de prophètes pas de malheur. Je ne dirais pas que c'est des prophètes de malheur, parce qu'ils répètent bien « n'ayez pas peur hein, », mais rituels et même pratiques qui parlent d'un avertissement et de refuge, de préparer ses refuges. Hein. Voilà, il y a quand même tout ça qu'on peut trouver en ce moment.
Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de choses et dans tout ce qu'on peut trouver, il faut en prendre et en laisser parce qu'il y a à boire et à manger. Donc c'est bien difficile de discerner parce que parfois tout est mêlé. Et du coup, oui, c'est vrai qu'il ne faut pas mépriser les prophéties, hein, comme il est dit par ailleurs dans l'Écriture, mais on est appelé à discerner. Et une prophétie, elle va être valable, comme vous l'avez dit, dans la mesure où effectivement, elle va mettre en lumière quelque chose qui est déjà annoncé dans la parole de Dieu. Et le rôle des révélations privées, notamment, ce qui permet d'ailleurs de les authentifier, c'est qu'elles viennent mettre en lumière quelque chose qui est déjà contenu. Si c'est quelque chose de nouveau, on sera plutôt enclin à la prudence, hein. Et c'est pour ça que pour moi, le meilleur discernement qu'on peut exercer par rapport à ça, eh bien, c'est celui que fait Benoît XVI par rapport à ces prophéties de Fatima, qui nous invite effectivement à la veille, à la pénitence, à la prière, à la conversion. Parce que la parole de Dieu n'est pas là pour nous faire peur, mais elle nous invite à nous préparer, c'est-à-dire à ouvrir notre cœur à cette réalité de l'avènement du Christ en gloire. Alors moi, je ne connais pas toutes ces prophéties que vous avez citées. Enfin, il y a quelques noms qui m'évoquent quelque chose et j'en ai entendu parler, bien sûr. Et je dirais que dans la mesure où effectivement ces personnes sur les réseaux sociaux invitent à la veille, à l'annonce de la bonne nouvelle, à la prière, à la vigilance, aux soins des plus petits, c'est conforme à la parole de Dieu, donc il n'y a rien à en dire. Si en revanche on rentre dans des scénarios un peu précis, datés, avec des catastrophes annoncées, etc., ou une lecture un petit peu trop littérale ou matérielle, j'émets quelques doutes et quelques réserves. Voilà.
Benoît, une question. Vous avez une
Oui.
question, Benoît?
Oui, enfin, c'est pour revenir au mystère de l'iniquité. Je ne sais pas si c'est une note caractéristique de l'Antichrist, mais bon, l'adversaire, il est le père du mensonge,
Oui.
hein, Jean 8, 34. Et j'ai eu comme l'impression, enfin, à la lecture de vos, enfin, surtout dans les premières et deuxièmes parties, que ben, ce travail de mensonge, disons, tel que nous pouvons y assister de nos jours, ben, vous n'en parliez pas beaucoup. Quoi. Je veux dire, ça ne faisait pas partie des caractéristiques alarmantes. Voilà. Donc,
Ah ben
ça m'a
si,
un
si,
petit
parce
peu.
que si, si, parce que c'est le cœur, justement, l'Antichrist, ça fait partie de ces trois caractéristiques, hein, il est l'adversaire de Dieu, Antichrist, donc l'adversaire du Christ, mais il est aussi le séducteur, donc le menteur, qui va se faire passer pour Dieu. Et en fait, toute la démarche de l'Antichrist et toutes ses manœuvres, elles sont profondément subversives. Voilà, donc ce mot de subversion, il est au cœur de cette doctrine de l'Antichrist qui vient contredire toute la figure trinitaire et qui vient subvertir eh bien, tout l'enseignement du Christ et de la foi. Donc cette réalité du mensonge, mais aussi, elle est bien sûr au centre, quoi. Y compris à travers cette contestation de la loi. Cette anomie qui va faire passer le mal pour un bien. Je réponds juste 30 secondes là parce que vous disiez dans les années 70, on n'en parlait pas du tout. Alors je réponds juste parce qu'il y a d'autres questions aussi. Dans les années 70, je pense qu'il y avait une peur de ces sujets-là parce que les années qui ont précédé étaient marquées par cette pastorale de la peur, où on disait aux petits-enfants, attention, Jésus va te punir. Si tu fais ça, tu vas aller en enfer, etc. Et du coup, il y a eu comme un retour de balancier où on a dit, non, mais on arrête de parler de l'enfer, du paradis et du purgatoire, parce que ça fait peur à tout le monde. Voilà. Donc, maintenant, je pense qu'on revient, j'espère, en tout cas, moi, j'appelle de mes voeux, est-ce qu'on revienne à un juste équilibre qui consiste à parler de manière ajustée de cette réalité des fins dernières, qui est la réalité de notre vie, en fait. C'est la réalité de notre existence. On conduit notre vie en vue de paraître face à Dieu et de pouvoir entrer avec lui dans le royaume. Voilà. Donc, et toute notre vie, elle n'a d'autre but que de nous y préparer. D'où le titre « Faut-il se préparer à la fin des temps ?» C'est le sens même de notre vie et il ne faut pas en avoir peur. C'est une espérance, c'est une joie d'entrer dans le royaume. Alors, il y avait une autre question.
Bonjour, merci pour votre présentation. Je souvent, moi, un peu plus cette idée du royaume des cieux ou des béatitudes comme un temps présent, comme ce qui se déroule aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis un peu, quelque part, voilà, je suis un peu arrêtée sur ce que vous présentez, dans le sens où j'ai entendu et retenu plusieurs invitations quand même à dire que Dieu, quelque part, nous pardonnait des péchés. Ça, c'était dans le petit livre pour les catéchumènes. Et puis, par rapport à ces questions de jugement, c'est vrai qu'on est assez sévère aussi parfois envers nous-mêmes. Et donc, j'ai retenu aussi certaines homélies qui invitaient à dire, mais souffle, quoi. Enfin, c'est pas si terrible. Et Jésus est mort déjà pour nos péchés. Il est déjà mort. Donc, de ne pas se flageller peut-être nous-mêmes pour des actes comme ça sur lesquels on serait nous-mêmes très, très regardants. Et que ce jugement donc appartient certes à Dieu, mais là vous faites peser quelque chose d'assez fort hein, en disant bah il vaut mieux être à ses côtés que damné. Bah oui, c'est bien. Oui. Pour revenir juste sur cette question aussi du volontarisme, parce que là vous insistez beaucoup sur la charité, mais je mets aussi dans ma vie quotidienne quand même dans certains projets, et je ne peux pas m'empêcher de penser, bah oui, qu'est-ce qui dans le réel m'invite à être plus concrète et à poser des actes pour aller vers des projets qui moi me mettent dans la joie. Donc ça indique quand même une certaine finalité de ma part, un but, et qui certes prend en considération les autres, mais qui n'est pas sans réfléchir aussi à ce qui moi m'anime personnellement.
Bien sûr, merci. Il y a beaucoup de choses en fait dans votre question. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à tout, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à reprendre le micro. Vous avez parlé du présent, je vis les béatitudes au présent, vous avez dit. Alors, vous soulignez un point qui est effectivement difficile dans toute la littérature apocalyptique et sur la question de l'eschatologie, c'est que il y a sur ces questions-là, comme on dit couramment, un déjà-là, pas encore. C'est-à-dire que cet avènement du Christ, il est commencé dès sa résurrection. Hein, et il se prolonge dans notre vie jusqu'à son avènement dans la gloire à la fin des temps. Hein, donc il y a quelque chose qui est déjà commencé dans notre vie, mais qui est incoatif, c'est-à-dire qui est en commencement, qui est en germination. Hein, Saint Paul parle des douleurs de l'enfantement, hein, d'ailleurs. Hein, il dit, voilà, nous sommes en travail, la création tout entière est en travail d'enfantement et nous gémissons avec elle jusqu'à la pleine révélation des fils de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est la réalité de notre vie, où il y a quelque chose qui est commencé de la fin, mais qui n'est pas encore achevé. Voilà. Donc vous avez raison de dire qu'il y a un présent et que cette réalité de la fin des temps et des béatitudes, ben, il faut la vivre aujourd'hui. Donc, tout à fait. Vous avez parlé du jugement de Dieu. Ben, le jugement de Dieu, il est remis à Dieu. Hein. Dieu seul est juge. Il nous donne seulement des critères pour qu'on puisse ajuster notre vie à ce que sera ce jugement, c'est-à-dire cette conformation de notre vie à celle du Christ. Donc, à nous de faire de notre mieux, hein, comme disent les Lousteaux, voilà, pour conformer notre vie à celle du Christ. Et bien évidemment, Dieu n'est pas contre la joie, il n'est pas contre le plaisir et il ne nous demande pas de souffrir. La souffrance, elle est présente dans le monde, la mort, elle est présente dans le monde et Dieu n'a pas voulu la mort, c'est pas lui qui l'a créée. Hein. On sait que c'est par le péché que la mort est entrée dans le monde hein, et Dieu est venu nous rejoindre dans cette réalité de notre vie marquée par le péché, justement pour nous en libérer et pour nous conduire à la joie en plénitude. Alors notre vie, elle est déjà marquée par la souffrance. Il y en a dans la salle qui n'ont jamais souffert, levez la main, ça m'intéresse. Hein, il y a des petites souffrances, des grandes souffrances, mais à chaque fois, il y a la grâce qui nous est donnée justement pour les traverser et pour que cette souffrance, eh bien, elle porte une fécondité, qu'elle est un fruit. Et c'est le grand langage de la croix. Sur la croix, Dieu n'a pas supprimé la mort, il l'a assumée et il l'a transcendée pour que, à travers nos souffrances, un bien plus grand puisse advenir. Voilà. Mais il ne l'a pas voulu pour elle-même. Voyez? Bon, je ne sais pas si ça répond, mais voilà.
On va peut-être prendre une dernière question. Je sais que vous êtes bien là avec la clim. Avant d'affronter les chaleurs. Et déjà, Charles, pardon de ne pas t'avoir donné un verre d'eau.
Ah non, je
merci. Mais, la dernière, il ne faut pas que ça vous fasse peur. C'est pas... Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux expliquer la différence entre le jugement personnel et la récapitulation?
Ah oui.
Et la récapitulation.
Alors c'est pas tout à fait du même ordre. C'est-à-dire, le jugement personnel, individuel, il est à notre mort. Lorsqu'on meurt, on paraît devant Dieu. Enfin, je dis ça, j'en ai pas l'expérience, hein, mais c'est ce qu'on peut déduire des enseignements du Christ. Hein, c'est le magistère de l'Église. Hein, on paraît devant Dieu. Et là, en fonction de notre vie, eh bien, soit on entre dans la vision béatifique, c'est les saints hein, qui ont préparé, qui tout au long de leur vie, bah, se sont préparés justement à rentrer dans la pleine lumière, qui se sont habitués à la lumière et qui du coup, bah, quand ils arrivent devant la lumière qui est Dieu, bah, ils y vont naturellement. C'est la vision béatifique. Ceux qui, au contraire, tout au long de leur vie, se sont détournés de la lumière et ont une vie d'obscurité en commettant le mal et se sont détournés du bien et de l'amour qu'est Dieu et de la lumière qu'il nous offre, et bien naturellement, lorsqu'ils paraissent dans la pleine lumière, comme quelqu'un qui était ébloui quand il sort d'un cachot, et bien ils s'en détournent et ils vont dans ce qu'on appelle l'enfer, donc qui est cet état de privation de Dieu, de privation de la lumière. Mais on n'y va pas par hasard. Hein, on y va parce qu'on s'est préparé tout au long de sa vie avec une vie de ténèbres. Hein. Et puis, bah, entre les deux, il y a toute cette situation des pauvres gens comme moi qui essayent de faire le bien mais qui n'y arrivent pas toujours, qui sont marqués par le péché et qui vont avoir besoin d'un temps, entre guillemets, parce que dans l'éternité, il n'y a pas de temps, pour se préparer à paraître dans la pleine lumière. Voilà, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Et donc, on est invité à prier charitablement pour les âmes du purgatoire afin qu'elles puissent rentrer dans cette pleine lumière de Dieu. Voilà, donc ça, c'est le jugement individuel. Hein. À la fin des temps, il y aura le jugement universel où chacun ressuscitera, les damnés bah, pour vivre dans le feu éternel, et puis les élus. Eh bien pour ressusciter, donc retrouver leur corps de chair. Me demandez pas quel corps exactement, ça c'est encore bien mystérieux, mais en tout cas une réalité, j'allais dire physique, en tout cas une réalité, oui, une forme d'incarnation, puisque le Christ, quand il ressuscite, hein, il apparaît avec un corps réel, mais dont on voit bien qu'il a des propriétés physiques un peu particulières, hein, puisqu'il arrive à rentrer, à traverser les murs, à rentrer dans une pièce fermée, mais il mange, par exemple, il mange du poisson, hein, qu'on lui offre. Voilà, donc il y a une réalité physique. On parle de cieux nouveaux, de terre nouvelle, c'est pas que symbolique. Donc il y a une recréation, hein, pour les élus qui partagent cette gloire dans les cieux. Voilà. Donc une reprise de cette création originelle dont il est question dans le livre de la Genèse. Et c'est là qu'on peut parler donc de récapitulation, hein, ou de restauration finale, hein, où toute chose est reprise et soumise au Christ, c'est-à-dire remise dans cet ordre dont le Christ est le centre. Voilà. Ça répond ?
Merci beaucoup, Charles. Voilà. On peut applaudir.
Merci à vous. Merci Charles. Pour vos questions. Est-ce que tout le monde a eu le petit tableau là, récapitulatif ? Ben, il doit être encore à l'entrée.
Le tableau est encore à l'entrée et je pense que la librairie est aussi à côté. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous avec cette chaleur. Et puis à bientôt au CTM.